Le vel, le mauvais guide. Combien s'était-il écoulé de jours, de semaines ou de mois, depuis qu'il pourrissait au fond de ce cul de basse fosse? L'homme n'aurait jamais pu le dire. Dans son cachot tout rempli d'ombre, nulle lueur ne passait. En s'aidant du genou et des mains, il avait, dressé sur sa couchette scellée au mur, tâté le plafond de sa prison, mais pas plus là qu'aux parois lisses, ni qu'aux dalles humides, ni qu'à la porte au fer rouillé, ses doigts n'avaient trouvé la moindre trou, la moindre issue. D'abord, il avait pensé que ses yeux, s'habituant à la nuit cruelle, finirait par y distinguer les objets, que sa raison aidant, cessant s'exaspérer, il pourrait deviner parmi ces ténèbres un peu de l'âme impalpable du jour, qui ne disparaît pas tout à fait pour les vivants. Mais ses yeux grands ouverts avaient en vain pleuré dans la nuit. Ses paupières avaient saigné sous l'effort inutile. Tout était noir, tout restait noir. Il n'entendait dans ce tombeau où traînait sa trop longue agonie que de temps en temps le pas lourd du geôlier qui lui apportait sa pitance. Pendant une seconde, la porte du cachot s'entr'ouvrait. Ses yeux clignotants pouvaient voir la tache rousse d'une lanterne, la tache plus pâle d'une face penchée et d'une main tendue, car l'ombre des couloirs se mélangeait à la sombre et impénétrable blonde de sa cellule. Puis la porte se refermait, le bruit de pas dans les corridors allait diminuant, et de nouveau, le grand silence épaississait sa nuit. Parfois aussi, il entendait gémir le vent et le clapotis monotone de l'eau qui, dans les fossés, venait battre les pieds du donjon. Des rêves fous de ciel, de liberté et de lumière avaient d'abord hanter son sommeil agité, puis, de ses songes mêmes, la lumière qu'il avait désapprise s'en alla. Il ne lui resta plus que la seule obsession de s'échapper de ce sépulcre. Des plans s'enchevêtrèrent dans sa pauvre tête égarée, tous et toujours aboutissant au même but, la fuite. Un jour ou une nuit, il n'aurait su le dire, comme il songeait, assis sur sa couchette, le bruit des pas du geôlier le tira de sa torpeur, bien que depuis longtemps il eût cessé d'éprouver à l'approche de ce vivant le moindre émoi, comme son estomac criait la faim et que ses lèvres desséchées avait besoin de se désaltérer, il se leva et se mit à marcher à tâtons. Une bouffée d'air froid jeta autour de lui une odeur aigre de pierre humide. À la lueur tremblante du falot, il vit à terre sa cruche et son écuelle. Lui entr'ouvert se referma. Il étendit la main vers la cruche de grès, mais au moment de la saisir, il s'arrêta. Un cri étrange avait traversé le silence. Il attendit, croyant avoir mal entendu. Il fit un pas, et le même cri monta du sol. Il s'agenouilla, mouillant doucement un claquement de lèvres, comme pour appeler un chien, rien ne répondit. Rampant à quatre pattes, il tâtait les dalles autour de lui. Il avait trouvé la cruche. Il la prit et se mit à boire à grands coups. Puis il la reposa dans un angle. Et soudain, un contact visqueux et froid le fit tressaillir. Sous sa main, une chose sembla fuir. Et ce cri qui l'avait étonné tout à l'heure s'éleva, rauque, étrange. Il resta sans bouger, le poing crispé sur la masse gluante qui sentait palpiter et battre à coups rapides et rythmés sous ses doigts. Le cri, une nouvelle fois, vibra dans ses oreilles. La chose se ramassa sous son étreinte pour s'échapper. Alors, au milieu de son dégoût et de son angoisse, une lueur se fit, et malgré lui, il dit presque à haute voix: Mais c'est une bête! Le son de sa propre voix lui fit peur. Il répéta: Mais c'est une bête! Une bête! Et tout d'un coup, il frissonna de tous ses membres. La sueur perla sur son front. Plus de doute, ce cri étrange, le corps visqueux, c'était le cri, c'était le corps d'un crapaud, un crapaud. Il s'imagine avoir la bête horrible, la bête impure, avec son dos zébré, son ventre blanc et ses gros yeux dorés. Ses doigts se détendirent. Le crapaud vit d'un bond et retomba avec un bruit mou. Alors l'instinct craintif à la fois et méchant de l'homme s'éveilla, et d'un coup de talon, il voulut l'écraser. Son pied heurta la bête flasque. Il crut l'avoir tué, mais le crapaud, mutilé, sans être mort, se reprit à pousser son cri. L'homme le poursuivit, tapant le sol de ses mains ouvertes. À son dégoût insurmontable, se mêlait un obscur remords de bourreau. Il voulait tuer la bête, non plus seulement pour ne plus risquer de la frôler, mais encore pour étouffer sa plainte. Peine inutile, le cri partait de-ci, de-là, et chaque fois que ses doigts croyaient atteindre la bête douloureuse, il rencontrait que la dalle glacée ou le mur rêche. Épuisé, les genoux tuméfiés et les paumes sanglantes, il s'étendit sur sa couchette et s'endormit. Dès qu'il fut réveillé, il songea: Oh, la bête doit être morte! Il prêta l'oreille pendant un moment et il n'entendit que la plainte lointaine du vent. Il respira plus largement, soulagé. Il se leva et, toujours tâtonnant, gagna la porte. Depuis longtemps, à l'aide d'un vieux bout de fer oublié dans un coin, il essayait d'en user les gonds. Il reprit son patient travail, limant sans bruit. Et soudain, le cri du crapaud se leva. Oh, bête immonde! gronda le prisonnier. Oh, je te ferai bien taire! Il recommença sa chasse, mais en vain. Lorsqu'il croyait tenir cette bête, elle glissait entre ses doigts. Cela dura des jours et des jours. S'il ne travaillait pas à déchirer sa porte, il rampait pour atteindre l'invisible carrefour. Le cri de la bête blessée résonnait à intervalles réguliers, et le captif exaspéré, sueur de peur, sentait par moments sa raison se troubler. Oh, quelle volupté c'eût été d'écraser le monstre et de voir éclater sous sa botte, presque dément. Il l'insultait, le provoquait. Viens donc, montre-toi, ose te montrer. Or, il advint qu'à force de limer les gonds de la porte, ils cédèrent, et que le battant, ayant pivoté lourdement, s'ouvrit. Une porte, mais qu'était-ce auprès de ces barrières effrayantes qu'il lui faudrait franchir, sans doute, avant que de voir le jour? Pourtant, une joie infinie réchauffa son courage. Il pensa, puisque Dieu a permis qu'avec mes mains je puisse détruire la première, c'est peut-être qu'il veut que les autres s'écroulent devant moi. Le couloir qui fuyait entre les murailles épaisses était à peu près aussi sombre que son oubliette. Ses yeux distinguèrent cependant une vague lueur venue dont il ne savait pas où, mais qui adoucissait la nuit. Le cœur battant à faire éclater sa poitrine, il prêta l'oreille. Pas un bruit. Alors il se dit, oh, le geôlier dort. Les gardes fatigués sont sans doute assoupis. Allez en route. Il fit un pas. Et par où? À droite, à gauche. Les minutes valent des siècles. Une seconde, c'est une fortune. Oh, je veux perdre, je veux pas en perdre une seule. Mais de quel côté sont les issues? Mais de quel côté, me dirigeant, fuirais-je vers la campagne claire? Il comprit qu'il allait se perdre, qu'il ne trouverait pas d'issue, et qu'il se jetterait dans les bras du bourreau. Une rage impuissante versa des larmes sur ses yeux, et il rugit. Oh! Toute ma raison inutile pour un éclair d'instant! Il croisait ses doigts dans ses cheveux, il les crispait, ses ongles labouraient la peau. Et voici que, dans le même instant, retentit le cri lugubre du crapaud. À la lueur mourante qui, tout à l'heure, avait ravi ses yeux, il vit luire son corps gluant. Un attendrissement l'envahit. Il regarda l'animal détesté comme un sauveur. Il se mit sur la pointe des pieds et, pour ne pas le gêner dans sa route, devinant que la bête allait d'instinct vers la lumière, et qu'en suivant sur les dalles sombres la trace immonde de sa course, il marcherait, lui, vers le jour radieux. La bête, estropiée jadis, avançait par bonds maladroits. Il ne la quittait pas des yeux, guettant sa piste. Derrière elle, il rampa dans des corridors montant et descendant des marches, et murmurant avec un accent de prière, va, va, emmène-moi. Et tout à coup, un vent frais caressa son visage. Et devant lui se détacha un pan de ciel où les étoiles venaient de briller. Au loin, un ray de lumière neigeuse, frangé de nuages, lui apparut. Oh, les deux mains jointes, il pleura. Ensuite, secouant son émotion, il avança une jambe et son pied glissa. Il posa l'autre glissa aussi. Le sol semblait se dérober sous lui. Il enfonça jusqu'aux chevilles. Il essaya de dégager ses jambes prisonnières. Il s'enfonça encore plus vite. Il était enlisé maintenant jusqu'aux genoux. Il étendit les mains, et ses mains, qu'il croyait s'appuyer sur une terre solide, enfoncèrent dans une boue épaisse. Il descendait, descendait. Il voulut appeler. Sa voix s'éteignit dans sa gorge. La boue montait en avant jusqu'à ses hanches. Elle étreignit son ventre, glissa jusqu'aux aisselles, effleura son menton et vint frôler ses lèvres. Alors, comme dans un suprême effort, il ouvrait toute grande la bouche pour hurler. Il entendit le cri qui l'avait obsédé pendant ses veilles. Il sentit un corps mou contre sa face blême, et devant lui le ventre gonflé, pattes tendues. Il vit passer le gros crapaud qui, d'un bond, avec un bruit de pierre, tomba dans l'eau fétide. L'homme gémit: Oh, tu te venges! Puis il ferma les yeux, râla: Mea culpa! Et disparut. De l'étang, soudain éveillé, s'élevèrent des coassements joyeux. La nuit mourait au bord du ciel, changeant. Les rides du marais s'élargissaient dans l'ombre et tout se tut. Un oiseau des ténèbres, fuyant le jour à tire-d'aile, effleura de son vol la noire moire sombre de l'étang, et l'aube, lente, à travers la pluie grise, glissa tout à fait sur l'horizon.